Chapitre 4. Je cours un grand danger dans le château de Chaos. Quoique si mal commencée, la journée se passa fort bien. Nous eûmes encore du porridge froid à midi et du porridge chaud le soir. Porridge et petite bière, mon oncle ne sortait pas de là. Il parla peu et, de la même façon que précédemment, me lançant une question à la fois après un silence prolongé. Mais tentais-je d'amener la conversation sur mon avenir, il se dérobait aussitôt. Dans une pièce attenante à la cuisine, où il me laissa entrer, je découvris abondance de livres, latins et anglais, qui me firent passer agréablement l'après-midi. Même le temps s'écoula si bien en cette excellente compagnie que j'en arrivais presque à aimer mon séjour de choses. Mais il suffisait de la vue de mon oncle et de ses yeux jouant à cache-cache avec moi pour raviver toute ma défiance. Je découvris quelque chose qui me fit rêver. C'était une dédicace sur la feuille de garde d'un livre pour enfants, un volume de Patrick Walter. Sans nul doute écrit de la main de mon père et ainsi conçu, à mon frère Ebenezer pour son 5e anniversaire de naissance. Or, voici ce qui me déroutait. Comme mon père était le cadet, il avait dû ou bien commettre une erreur étrange, ou bien savoir écrire avant sa 5e année d'une main experte, nette et virile. J'essayais de n'y plus penser, mais j'eus beau prendre les plus intéressants auteurs, anciens ou récents, histoire, poésie, roman, cette préoccupation de l'écriture de mon père me hantait. Et lorsqu'enfin je retournai à la cuisine, pour m'attabler une fois de plus devant le porridge et la petite bière, les premiers mots que j'adressai à mon oncle Ebenezer furent pour lui demander si mon père avait appris très vite. « Alexandre, non pas, répondit-il. J'ai été moi-même bien plus prompt. J'étais un garçon fort avancé. Oui, j'ai su lire et écrire aussitôt que lui. » Je comprenais de moins en moins, mais une idée me passa par la tête, et je demandai à mon oncle si mon père et lui étaient jumeaux. Il fit un bond sur son escabelle, et en laissant choir la cuillère de corne sur le carreau, « Pourquoi diantre me demandez-vous cela ? » dit-il, en m'empoignant par le revers de ma jaquette et en me regardant cette fois dans le blanc des yeux. Les siens étaient si petits et clairs, mais luisants comme ceux d'un oiseau, avec de singuliers clignotements. « Que voulez-vous dire ? » demandai-je, très calme, car j'étais beaucoup plus fort que lui et ne m'effrayais pas aisément. « Lâchez donc ma jaquette, ce ne sont pas là des façons. » Mon oncle parut faire un grand effort sur lui-même. « Parbleu, ami David, dit-il, il ne faut pas me parler ainsi de votre père. Voilà où est votre erreur. » Il se rassit tout tremblant et fixa les yeux sur son assiette. « C'était mon frère unique, ajouta-t-il, mais sans la moindre émotion dans la voix. Puis, ramassant sa cuillère, il se remit à manger, mais sans cesser de trembler. Or, cette dernière scène, ses mains portées sur ma personne et cette soudaine profession d'amour envers mon défunt père, dépassaient tellement ma compréhension que je fus saisi à la fois de crainte et d'espérance. D'une part, je me demandais si mon oncle n'était pas fou et susceptible de devenir dangereux. D'autre part, il me revint à l'esprit, tout à fait involontairement et même malgré moi, une manière d'histoire sous forme d'une complainte que j'avais ouï chanter, d'un pauvre garçon qui était héritier légitime et d'un méchant parent qui l'empêchait d'obtenir son bien. Pourquoi mon oncle eût-il joué ce rôle vis-à-vis d'un neveu qui arrivait presque mendiant à sa porte, s'il n'avait eu au fond du cœur une raison de le craindre? Hanté par cette idée, que je repoussais, mais qui s'implantait fortement dans ma cervelle, J'en vins à imiter ses regards subreptices, en sorte que nous étions attablés comme un chat et une souris, chacun surveillant l'autre à la dérobée. Il ne trouva plus un mot à dire, mais il était occupé à retourner quelques pensées en lui-même, et plus je le regardais, plus j'acquérais la certitude que cette pensée était loin de m'être favorable. Après avoir débarrassé la table, il tira, juste comme le matin, une pipée unique de tabac, attira un escabeau dans l'angle de la cheminée et resta assis un moment à fumer en me tournant le dos. « David, dit-il enfin, j'y songe. » Puis il fit une pause et répéta « J'y songe. Il y a cet argent que je vous ai à moitié promis avant votre naissance, ou plutôt que j'ai promis à votre père. Oh, rien de légal, comprenez-le, juste un badinage de gentleman après boire. Eh bien, j'ai mis cet argent de côté. Grosse dépense, mais enfin, une promesse est une promesse. Et la somme est devenue aujourd'hui l'affaire de juste exactement... Il fit une pause et balbutia « De juste exactement 40 livres ». Ces derniers mots furent lancés avec un regard de côté par-dessus son épaule. Mais l'instant d'après, il ajoutait, dans une sorte de cri, « D'Écosse ». La livre d'Écosse étant la même chose que le shilling anglais, la différence entraînée par ce correctif était énorme. Je voyais bien d'ailleurs que toute l'histoire n'était qu'un mensonge inventé dans un but que je m'évertuais à deviner, et je ne cherchais pas à atténuer le ton railleur de ma réponse. « Oh, réfléchissez un peu, livre sterling plutôt !»« C'est ce que je dis, répliqua mon oncle, livre sterling. Et si vous voulez bien aller à la porte une minute, juste pour voir si la nuit est belle, « je vais sortir la somme, et je vous rappellerai. » Je lui obéis, riant en moi-même de mépris à le trouver si facile à tromper. La nuit était sombre, avec de rares étoiles au bas du ciel, et, tandis que j'étais sur le pas de la porte, j'entendis un gémissement sonore de vent au loin sur la colline. Je prévis que le temps allait changer et se mettre à l'orage, mais je ne devinais guère toute l'importance que cela devait avoir pour moi avant la fin de la soirée. Mon oncle me rappela, puis il me compta dans la main 37 guinées d'or. Il avait le reste dans sa main, en petites pièces d'or et d'argent, mais le cœur lui manqua, et il fourra ce complément dans sa poche. « Là, dit-il, cela vous apprendra. » Je suis un peu bizarre et déconcertant pour les étrangers, mais je ne connais que ma parole, et vous en avez la preuve. Cependant, mon oncle avait un air si malheureux que je restais pétrifié devant sa générosité, et que je ne pus trouver de mots pour l'en remercier. « Pas un mot, dit-il, pas de merci, je n'en veux pas, je fais mon devoir. Je ne dis pas que tout le monde en aurait fait autant, mais pour ma part... ce qui ne m'empêche pas d'être prévoyant, ce m'est un plaisir de faire du bien au fils de mon frère, et ce m'est un plaisir de penser qu'à présent, nous allons nous entendre comme il sied à des amis si proches. » Je lui retournai le compliment de mon mieux, mais je ne cessais de me demander ce qui allait s'en suivre, et pourquoi il s'était dessaisi de ces précieuses guinées. Car, pour ce qui était de la raison qu'il m'en donnait, un enfant n'y aurait pas cru. Il me regarda de côté. « Et à présent, dit-il, donnant, donnant. » Je lui affirmai que j'étais disposé à lui prouver ma juste reconnaissance et je m'attendais à une demande exorbitante. Néanmoins, lorsqu'il eut enfin rassemblé son courage pour parler, il se contenta de me dire, fort exactement à mon avis, qu'il se faisait vieux et un peu cassé et qu'il espérait me voir l'aider à tenir la maison et son bout de potager. Je lui répondis en lui offrant aussitôt mes services. « Eh bien, dit-il, commençons. » Il tira de sa poche une clé rouillée. « Voici, dit-il, voici la clé de la tour de l'escalier, au bout de la maison. L'on n'y accède que de l'extérieur, car cette partie du bâtiment est restée inachevée. Allez-y, montez l'escalier et descendez-moi le coffre qui est en haut. Il contient des papiers, ajouta-t-il. Puis-je avoir une lumière, monsieur? dis-je. Non, dit-il d'un air plein de ruse. Pas de lumière dans ma maison. Parfait, monsieur. L'escalier est-il bon? Magnifique. Et comme je m'en allais, tenez-vous au mur, ajouta-t-il. Il n'y a pas de rampe, mais les marches sont excellentes sous le pied. Je sortis dans la nuit. Le vent gémissait toujours au loin, bien que pas un souffle n'en parvînt au château de Chaos. Il faisait encore plus noir que tantôt, et j'eus soin de longer le mur qui me conduisit à la porte de la tour d'escalier, à l'extrémité de l'aile inachevée. J'avais mis la clef dans la serrure et lui avais donné un tour, lorsque, soudain, sans bruit de vent ni de tonnerre, tout le ciel s'illumina d'un vaste éclair, et les ténèbres se refermèrent instantanément. Je dus mettre la main sur mes yeux pour me réhabituer à l'obscurité, et j'étais en fait à demi aveuglé lorsque je pénétrai dans la tour. Il y faisait si noir qu'il semblait impossible d'y respirer, mais tâtonnant des pieds et des mains, je heurtai le mur et la marche inférieure de l'escalier. Le mur, au toucher, était de pierre lisse. Les marches, elles aussi, bien que hautes et étroites, étaient de maçonnerie polie, et régulière et ferme sous le pied. Me rappelant la recommandation de mon oncle au sujet de la rampe, je longeai la paroi de la tour et m'avançai à tâtons et le cœur battant dans l'obscurité de poids. Le château de Chaos avait 5 bons étages de haut, sans compter les mansardes. Néanmoins, il me sembla, en avançant, que l'escalier devenait plus aéré et une idée plus éclairée. Et je me demandais quelle pouvait bien être la cause de ce changement, lorsqu'un deuxième éclair de chaleur s'illumina instantanément. Si je ne poussais pas un cri, ce fut parce que la terreur me serrait à la gorge, et si je ne tombais pas, ce fut plutôt par l'intervention du ciel que grâce à mes forces. Car non seulement l'éclair brilla de toutes parts à travers les fissures de la muraille, non seulement je me vis escaladant un échafaudage à jour, mais la même lueur passagère me montra que les marches étaient d'inégale longueur et que j'avais à cet instant un pied à 2 pouces du vide. C'était donc là le magnifique escalier, pensais-je. Et en même temps, une bouffée de courage due à la colère me monta au cœur. Mon oncle m'avait envoyé ici, assurément, pour courir de grands risques et peut-être pour mourir. Je me jurai de tirer au clair ce peut-être, dussé-je me casser le cou. Je me mis à 4 pattes et, avec une lenteur de limace, tâtant devant moi pouce par pouce et éprouvant la solidité de chaque pierre, je poursuivis mon ascension. L'obscurité, par contraste avec l'éclair, me semblait avoir redoublé. Et ce n'était pas tout, car à présent les oreilles me bourdonnaient, et j'étais étourdi par un grand remue-ménage de chauves-souris dans le haut de la tour, et les sales bêtes, en volant vers le bas, se cognaient parfois à mon corps et à ma figure. La tour, j'aurais dû le dire, était carrée, et chaque marche d'angle était constituée par une grande dalle de formes différentes pour joindre les volets. Or, j'étais arrivé à l'un de ces tournants lorsque, en tâtant devant moi comme toujours, ma main effleura une arête au-delà de laquelle il n'y avait plus que le vide. L'escalier n'allait pas plus haut. Faire monter l'escalier dans l'obscurité par quelqu'un qui ne le connaissait pas, c'était envoyer ce quelqu'un à la mort. Et bien que, grâce à l'éclair et à mes précautions, je fusse sauf, à la simple idée du danger que je venais de courir et de l'effrayante hauteur d'où j'aurais pu tomber, mon corps se couvrit de sueur et mes membres se dérobèrent. Mais je savais maintenant tout ce que je voulais savoir, et faisant demi-tour, je me mis à redescendre, le cœur plein d'une colère furieuse. Comme j'étais à mi-chemin, une rafale de vent survint qui ébranla la tour puis s'éloigna. La pluie commença et je n'étais pas encore au niveau du sol qu'elle tombait à seaux. J'avançai ma tête dans la tourmente et regardai dans la direction de la cuisine. La porte, que j'avais refermée derrière moi en partant, était à présent grande ouverte. Il s'en échappait une faible lueur. Et j'entrevis une forme debout sous la pluie, immobile comme celle d'un homme qui écoute. Et alors, il y eut un éclair aveuglant qui me découvrit en plein mon oncle, là où j'avais cru le voir en effet. Et presque aussitôt, le roulement du tonnerre éclata. Mon oncle s'imagina-t-il que ce bruit était celui de ma chute, ou bien discerna-t-il la voix de Dieu dénonçant son crime? Je le laisse à penser. Le fait est, du moins, qu'il fut saisi comme d'une terreur panique et qu'il s'enfuit dans la maison, laissant la porte ouverte derrière lui. Je le suivis le plus doucement possible et, pénétrant sans bruit dans la cuisine, m'arrêtai à le considérer. Il avait eu le temps d'ouvrir le buffet d'angle et d'en sortir une grosse bouteille clissée d'eau-de-vie, et il était alors assis à la table, le dos tourné vers moi. À tout moment, il était pris d'un effrayant accès de frisson. Il gémissait alors tout haut et, portant la bouteille à ses lèvres, buvait à pleine gorge l'alcool pur. Je m'avançai jusqu'auprès de lui et, soudain, abattant mes deux mains à la fois sur ses épaules, je m'écriai « Ah !» Mon oncle poussa un cri inarticulé, pareil au bêlement d'un mouton, leva les bras au ciel et tomba sur le carreau comme mort. J'en fus un peu affecté, mais j'avais d'abord à m'occuper de moi, et je n'hésitais pas à le laisser où il était tombé. Les clés étaient pendues dans le buffet, et j'étais résolu à me procurer des armes avant que mon oncle eût repris avec ses sens la faculté de me nuire. Le buffet contenait quelques fioles, de médicaments sans doute, beaucoup de factures et d'autres paperasses dans lesquelles j'aurais volontiers fouillé, si j'en avais eu le temps, et divers objets qui ne pouvaient m'être d'aucune utilité. J'examinai ensuite les coffres. Le premier était plein de farine, le second de sacs d'argent et de liasses de papier. Dans le troisième, entre autres choses, principalement des habits, je trouvai un Dirk Highlander, rouillé et d'aspect formidable, avec son fourreau. Je cachai cette arme sous mon gilet et retournai auprès de mon oncle. Il gisait comme il était tombé, en un tas, un genou relevé et un bras allongé. Sa figure était d'un bleu étrange et il semblait avoir cessé de respirer. La peur me prit qu'il fût mort. J'allai chercher de l'eau et lui en asperger la face. Il revint à lui, sa bouche tressaillit et ses paupières se soulevèrent. Enfin il m'aperçut et ses yeux révélèrent une terreur qui n'était pas de ce monde. « Allons, allons, dis-je, debout.
« Êtes-vous en vie ? » pleurnicha-t-il. « Oh, mon ami, êtes-vous en vie ?»«
Je le suis, dis-je, mais ce n'est pas grâce à vous. » Il s'était mis sur son séant et tirant sa respiration avec de profonds soupirs.
« La fiole bleue, dit-il, dans l'armoire, la fiole bleue !»
Son souffle se ralentissait. Je courus au buffet et y trouvai en effet une fiole médicinale bleue, dont l'étiquette prescrivait la dose, que j'administrais en toute hâte à mon oncle.
« C'est mon mal, dit-il, reprenant vie peu à peu. J'ai une maladie, David, au cœur. »
Je le mis sur une chaise et le considérai. À vrai dire, je ressentais quelque pitié envers cet homme qui avait l'air si malade. Mais j'étais plein de juste colère aussi, et je lui énumérai les points sur lesquels je voulais des explications. Pourquoi il me mentait à chaque mot? Pourquoi il craignait de me voir le quitter? Pourquoi il n'aimait pas que l'on insinuât que mon père et lui fussent jumeaux? Est-ce parce que c'est vrai? Demandai-je. Pourquoi il m'avait donné cet argent, auquel j'étais convaincu de n'avoir pas droit? Et enfin, pourquoi il avait tenté de me faire mourir? Il m'écouta d'un bout à l'autre en silence, puis, d'une voix entrecoupée,
Il me pria de le laisser se mettre au lit. « Je vous le dirai demain, dit-il, aussi vrai que je vais mourir. » Et il était si faible que je ne pus faire autrement que de consentir. Toutefois, je l'enfermai dans sa chambre et mis la clé dans ma poche. Puis, retournant à la cuisine, j'y fis une flambée comme elle n'en avait pas connue depuis des années. Et, m'enveloppant de mon plaid, je m'étendis sur les coffres et m'endormis.